Chapitre 6. Sur la rive droite de la Tamise, tout près de l'endroit où elle se confronte avec la mer, s'étend le petit bourg de Whitestable. Il n'est guère habité que par des marins, et les maisons qui s'alignent le long de la rivière ne sont que de simples cottages en briques, élevés tout au plus de 2 étages. Mais on devine qu'elles sont habitées par une population aisée et joyeuse. Dans cette riante bourgade se passait, il y a 40 ans, une scène touchante. Un enfant était à genoux près d'un lit où reposait une femme très pâle. Derrière lui, un homme se tenait debout, les mains jointes et la tête inclinée sur sa poitrine. De grosses larmes roulaient dans ses yeux. Tout à coup, il prit l'enfant dans ses bras et approcha son visage de celui de la femme couchée. Le pauvre petit mit un baiser sur un front qui était froid comme du marbre, et il frissonna de la tête aux pieds. Il venait de toucher une morte, et cette morte était sa mère. L'enfant se nommait Robert Byrd, et il avait déjà perdu son père. L'homme était un vieux marin qu'il avait recueilli et qu'on appelait Thomas Disney. Il était veuf et il avait 2 filles. Disney habitait tout au bord du fleuve une jolie maisonnette qui lui appartenait. Après avoir longtemps navigué, il avait renoncé à la mer pour choisir un métier plus dangereux et plus lucratif. Whitestable a eu de tout temps la spécialité des travaux sous-marins, et la corporation des plongeurs anglais se recrute presque tout entière parmi ses habitants. Cette industrie était alors peu pratiquée et les hardis compagnons qui exploraient le fond de la mer gagnaient de gros salaires, sans parler des trouvailles qui n'étaient pas rares. À force d'ordre et d'intelligence, Disney avait amassé un petit capital et il était devenu chef d'une compagnie de plongeurs, c'est-à-dire qu'il traitait directement avec les entrepreneurs et qu'il se chargeait à forfait du sauvetage des navires naufragés. L'aînée des filles de Disney se nommait Mary. Elle avait un an de plus que Robert. Helen, la cadette, était de 3 ans plus jeune. Celle-là était la préférée de l'orphelin. À l'air terrieuse, elle avait, disait le vieux Tom, tout le caractère de sa mère. Mary formait avec elle un contraste parfait. Avec sa figure de madone, éclairée par de grands yeux bleus, d'une expression douce et triste, elle était aussi calme que sa sœur était vive. Quoiqu'elle fût l'aînée, elle subissait visiblement l'influence de sa cadette, dont la raison était plus développée, et Robert ne la jugeait pas toujours digne de l'associer à ses jeux avec Helen. Les 3 enfants étaient élevés ensemble, et en se reportant à ses premières années si joyeuses, Robert avançait bien souvent depuis que la vieille coutume espagnole a raison de célébrer comme une fête la mort des petits êtres que Dieu rappelle à lui avant qu'ils aient goûté l'amertume de la vie. Il avait 13 ans quand il souffrit son premier chagrin. Un soir, le vieux marin le prit sur ses genoux et lui dit « Robert, mon enfant, tu as vu mourir ta pauvre mère. Ton père est mort aussi, loin, bien loin d'ici, de l'autre côté de la mer. » Tu n'as plus dans ce monde que le pauvre vieux Tom, et tant qu'il vivra, tu seras traité comme son fils, mais il ne sera pas toujours là. Il est temps de penser à faire de toi un homme. Demain, je te conduirai moi-même à Douvres, et je te confierai à mon ancien capitaine de l'Ariel, qui te conduira à Paris, où tu apprendras le français, les mathématiques et bien d'autres choses que j'ai jamais sues. » L'enfant pleura beaucoup en embrassant le lendemain ses 2 petites compagnes, et il monta en voiture, le cœur bien gros. Trois jours après, il était placé dans un des meilleurs pensionnats de Paris et il y resta 6 ans. Les premiers mois de sa nouvelle existence furent cruels. Robert avait la timidité un peu sauvage des enfants élevés dans la maison paternelle. Il ne savait pas un mot de français. C'était plus de réseau qu'il en fallait pour faire de lui le souffre-douleur des autres écoliers. Peu à peu, cependant, les persécutions se calmèrent. Robert était grand et fort pour son âge, et il parvint à se faire respecter en même temps qu'il commençait à se faire comprendre. Il devint alors un élève laborieux et taciturne. Ses camarades ne le tourmentaient plus, mais il ne s'associait plus à leur jeu. Il préférait l'étude à leur partie bruyante et sa seule joie était de recevoir des nouvelles de ses chers amis de Whitstable. À la fin de la 6e année de son séjour dans cette école où il avait passé tant de longues et tristes heures, Robert apprit avec bonheur que son père adoptif le rappelait auprès de lui. Il devait avoir 19 ans. L'enfant était devenu un homme, mais son cœur n'avait pas changé, et les souvenirs de Cottelge y occupaient toujours la première place. Quand il arriva à Whitstable, Tom Disney le serra longtemps dans ses bras et lui dit d'embrasser ses sœurs. Elles étaient là, toutes les deux, Helen et Marie, si grandes, si belles, qu'il les reconnut à peine. Les deux Babies étaient devenues deux jeunes filles charmantes, et Robert resta si interdi qu'il n'osait pas s'approcher. Mais Helen lui sauta au cou la première, et Mary fit comme elle. Les affaires du vieux Tom avaient prospéré. Le sauvetage de navires naufragés sur les côtes d'Irlande lui avait rapporté de beaux bénéfices, et on lui proposait chaque jour de nouvelles entreprises. Il pensait à y associer son fils adoptif et il désirait lui voir choisir la profession d'ingénieur qui lui permettrait de l'aider dans ses travaux. Il fut convenu que Robert irait terminer ses études à Londres et qu'une fois muni de son diplôme, il reviendrait diriger les opérations que méditait Disney. Le vieux plongeur avait le fanatisme de son métier, et le désir de s'enrichir était moins fort chez lui que l'amour de l'inconnu et l'attrait du danger. Il recherchait de préférence les affaires hasardeuses, les sauvetages auxquels d'autres avaient renoncé. Malgré son âge, il aimait encore à descendre sur les débris des navires coulés, et mieux que pas un, il savait découvrir les trésors enfouis dans leurs flancs entr'ouverts. Il savait à fond toutes les légendes de la mer, et il n'eut pas de peine à enflammer la jeune imagination de Robert, qui partit plein d'ardeur et d'espoir. L'ingénieur de Londres, chez lequel il entra, était un de ces savants pratiques comme l'Angleterre en produit, et sous sa direction, le jeune homme fit de rapides progrès. Une existence nouvelle commença pour Robert. Tous les mois, il allait passer quelques jours à Whitstable et il amenait souvent avec lui une de ses camarades pour lequel il avait conçu une très vive amitié. Ce camarade, Diego Palmer, c'était son nom, était né aux Antilles d'un père anglais et d'une mère espagnole. Il était orphelin et n'avait d'autres ressources que la petite pension qu'il tenait d'un oncle maternel. Comme Robert, il travaillait pour être ingénieur, et la conformité de leurs études et de leur situation fut le premier lien qui les unit. C'était alors un beau jeune homme, grand, mince, avec un teint très brun et des yeux noirs pleins de feu et d'audace. Son esprit charmait son ami qui, sur bien des points, reconnaissait en lui une supériorité réelle. Parfois aussi il l'effrayait en émettant des idées singulières. Robert était encore à l'âge où la vie est souriante, et les paroles amères qui échappaient souvent à Diego le choquaient et l'attristaient. Cependant, le jeune étranger avait été accueilli à Whitstable comme un frère. Il avait fait tout d'abord la conquête du brave Tom, en lui parlant des colonies anglaises, où il était né, car le vieux marin était ravi qu'on lui fournît l'occasion de raconter ses voyages. Quant aux deux petites sœurs, comme Robert les appelait encore, elles recevaient à merveille M. Palmer. L'aîné surtout ne pouvait se lasser de l'entendre. Mary était alors une beauté parfaite. Son doux visage avait gardé la pureté angélique de la première enfance, mais, comme son visage, son esprit était resté enfantin. On eût dit une création inachevée, et il semblait que Dieu se fût arrêté après l'avoir doué de la beauté et de la bonté. De tout ce qu'on lui avait appris, son intelligence endormie n'avait à peu près rien retenu. Elle ne savait qu'aimer. Son père, qui n'avait reçu que l'instruction d'un marin, s'apercevait à peine de cette infériorité, mais sa sœur Hélène en souffrait, et plus d'une fois elle avait confié son chagrin à Robert. Elle fut la première à s'apercevoir du sentiment nouveau qui s'emparait de Mary. Elle s'informa de Diego, de ses habitudes et de son caractère, et elle exprima des craintes sérieuses sur l'avenir de sa sœur. Robert eut beau lui faire l'éloge de son amie, il ne réussit pas à la rassurer complètement. Eux aussi, ils s'aimaient, mais ils n'avaient jamais pensé à se le dire. Ne jamais se quitter, veiller ensemble sur leur chère Mary, c'était tout le rêve d'avenir de ces deux âmes tendres et pures. Mais le moment fatal qui devait bouleverser leur vie était proche. Un jour, au retour d'un voyage à Whitstable, Robert reçut une lettre de sa sœur. « Venez sur le champ, écrivait Hélène, il faut absolument que je vous voie. Ne perdez pas une minute, il y va de notre bonheur à tous. » Robert partit le soir même, très inquiet de cet appel précipité, et il arriva le lendemain matin à Whitstable. Hélène l'attendait à la voiture. Elle était venue seule, ce qui n'a rien de choquant avec la liberté dont les jeunes filles jouissent en Angleterre, et au lieu de conduire Robert au cottage, elle prit un sentier qui longeait la plage. À 2 miles du village, une pointe rocheuse domine la mer. On a de là une vue magnifique. La Tamise est si large que la rive opposée se dessine à peine à l'horizon, et les voiles blanches des navires qui remontent le fleuve semblent de loin des bandes de goélands. Sur ce cap sauvage où elle était venue bien souvent s'asseoir dans son enfance, Hélène s'arrêta. « Robert, dit-elle, j'ai à vous parler de choses sérieuses. Mary aime Diego, et elle s'est fiancée à lui. » Robert fit un mouvement de surprise. « Oui, cela est ainsi, continua-t-elle avec le même calme. Mary me l'a dit hier, et votre ami doit venir demain demander sa main à notre père. Oh, j'ai le pressentiment d'un malheur, mais il est trop tard, et ce mariage s'accomplira. Ne pensez-vous pas, Robert, que nous devons nous marier aussi pour que vous m'aidiez à protéger notre sœur ?» Le jeune homme était si ému qu'il ne put trouver un mot à répondre, mais il prit la main d'Hélène et il l'embrassa en tremblant. « Je vous ai amené ici, reprit-elle, parce que notre pauvre mère aimait à s'y reposer autrefois. Jurez-moi, par son souvenir, de veiller sur Mary toute notre vie. » Robert jura, et les deux jeunes gens, liés pour toujours par ces paroles si simples et si touchantes, reprirent ensemble le chemin du cottage. Le vieux Disney fut joyeusement surpris de revoir sitôt son fils adoptif. Robert lui sauta au cou, mais il était si troublé par son bonheur qu'il eut bien de la peine à s'expliquer. Quand l'excellent homme eut compris, il ne put s'empêcher de pleurer de joie. C'était le rêve de toute sa vie qui allait s'accomplir. Il ne mit qu'une condition à son consentement, ce fut que ses enfants ne le quitteraient pas, jamais, et Robert lui promit de grand cœur. Mais sa surprise fut vive quand Hélène lui apprit la résolution de Mary. Il balbutia, jura même un peu entre ses dents, et finit par dire que, si cela était ainsi, si Marie aimait le jeune homme, et si le jeune homme était un brave garçon, il ne s'opposerait pas à ce mariage, quoique, à vrai dire, Marie ne fut pas en état de faire une ménagère. Pendant qu'il parlait ainsi, en s'interrompant à chaque instant pour essuyer une larme, Hélène avait fait entrer Mary, qui lui sauta au cou à son tour. C'en était trop, et le pauvre Tom n'était pas de force à résister. Il voulut bien essayer de gronder la fille, imprudente, qui s'était engagée sans son consentement. Mais elle lui répéta si souvent de sa voix douce « Père, je l'aime !» qu'il céda. Le lendemain, Diego arriva à Whitstable. Robert lui en voulait un peu de son manque de franchise. Mais Diego se montra si affectueux avec son ami, si tendre avec Mary et si empressé auprès du vieux Tom, qu'il fallut bien pardonner. Hélène seule garda avec lui une certaine froideur. Les formalités qui précèdent le mariage ne sont pas en Angleterre aussi longues qu'en France, et il fut convenu que les deux couples seraient unis le même jour dans le court délai d'un mois. Tom Disney n'avait d'autre parenté que deux vieilles cousines qu'il ne voyait jamais. Robert était absolument seul au monde et Diego déclara qu'il n'avait nul besoin du consentement de son oncle. Cet unique parent se trouvait aux Antilles et il eût été beaucoup trop long d'attendre sa réponse. Tom était exempt de préjugés et il lui importait peu d'avoir deux gendres sans famille et sans fortune, pourvu qu'ils fussent honnêtes et laborieux. Quand il eut fait le voyage de Londres, il ne douta plus d'avoir bien rencontré, car l'ingénieur lui fit l'éloge le plus complet de son élève Diego. Il fut décidé qu'on habiterait provisoirement le cottage et qu'on ferait ménage commun. Disney ayant déclaré qu'il était bien assez riche pour défrayer tous ses enfants. Ce fut un grand jour pour le bourg de Whitstable que celui de la double noce. Thomas Disney était aimé et la population entière prit part à sa joie. On s'en aperçut bien à la vigueur des hurrahs poussés en son honneur et au nombre de pintes d'ailes vidées dans le jardin, car Tom fit largement les choses et pendant toute cette journée, pauvres et riches profitèrent de l'hospitalité du vieux marin. Les temps heureux ne se racontent pas, et ceux qui suivirent le mariage de Robert sont restés dans son souvenir comme l'image du plus grand bonheur que l'homme puisse goûter en ce monde. Le sentiment si pur et si élevé de l'amour conjugal était né dans son cœur et le remplissait tout entier. Il découvrait chaque jour à sa chère Hélène des qualités nouvelles et il bénissait Dieu qui avait permis qu'elle le choisît. Mary, peu expansive de sa nature, semblait heureuse aussi et témoignait une joie tranquille. Diego se montrait plein de tendresse et l'avenir souriait aux jeunes époux. La lune de miel dura 2 mois, pendant lesquels le père voulut laisser ses enfants à eux-mêmes. Ce fut Hélène qui parla la raison la première. Elle dit en riant qu'elle ne voulait pas d'un mari oisif et qu'il était temps de se mettre au travail. Mary fit la moue à l'idée de quitter son petit mari, mais Robert appuya la proposition et Diego fit comme lui. Disney avait justement alors monté un atelier à Douvres pour les travaux sous-marins de la jetée, et on décida que les deux gendres iraient faire leur apprentissage sous sa direction. Tom prétendait qu'il ne suffisait pas d'être ingénieur, mais qu'il fallait encore savoir marcher dans les ténèbres claires, comme les plongeurs appellent les fonds de la mer. Pour sauver une cargaison, les appareils les plus savants ne valent pas, disait-il, les deux mains d'un homme intelligent et hardi, et le vieux marin avait raison. Robert avait toujours rêvé ce métier aventureux, et il l'adopta avec joie. C'est pourtant un périlleux travail que celui qui s'accomplit sous les vagues. Revêtu de ses habits imperméables, la tête emprisonnée dans un casque épais, les pieds et la poitrine couverts de plaques de plomb, le plongeur descend lentement au fond de la mer. Au-dessus de lui, sur une frêle embarcation, deux hommes font agir incessamment la pompe à air qui lui envoie la vie. Un instant de négligence de leur part, une fausse manœuvre, et il est perdu. Quand il a touché le sol humide, où il a peine à se tenir debout, déjà sa tête bourdonne, ses oreilles saignent. Il regarde à travers la cloison de verre de son casque, et il pense avec terreur qu'un choc peut briser ce verre et que cet accident, c'est la mort. Une corde enroulée autour de son poignet lui sert de fil d'Ariane, et quand la lumière douteuse qui pénètre dans ses mornes solitudes lui a permis de se diriger, il lui faut travailler comme s'il respirait l'air pur, comme s'il était éclairé par le joyeux soleil. Les plus misérables ouvriers des champs et des villes suspendent quelquefois leur pénible labeur pour causer et appuyer sur leurs outils. Quelquefois, ils chantent gaiement pour oublier leur fatigue. Le plongeur, lui, ne se repose jamais. S'il a des compagnons, ils errent silencieux comme des fantômes. Et s'il veut parler, sa voix sourde et creuse se perd sous son armure de cuivre. Cette industrie effrayante, plus dangereuse 100 fois que celle des chercheurs de fenouil sur la falaise de Douvres, que Shakespeare appelle le métier terrible, « dreadful trade », attirait Robert depuis son enfance, et on ne peut rendre la joie qui le transporta le jour où son père adoptif lui donna sa première leçon. À peine éprouva-t-il un instant cette émotion que donne toujours le sentiment de l'inconnu et que les plus hardis soldats ressentent, dit-on, à leur première bataille. Le vieux Tom était ravi de voir son fils si brave et il voulut le guider lui-même dans sa première campagne. Robert souffrit cruellement d'abord de cette douleur étrange que les gens du métier nomment le mal de dents et des oreilles. Mais il était jeune, robuste, et il avait tant d'enthousiasme qu'il fit des progrès rapides. Bientôt, il sut conserver son aplomb, marcher droit vers les blocs qui forment le soubassement de la jetée de Douvres et les soulever avec un énorme levier. Les vieux plongeurs étaient émerveillés de son adresse et de son courage. « Diego montrait moins de disposition. » Il essaya aussi de plonger sous la direction de Disney, mais il était aisé de voir que cette périlleuse besogne ne lui plaisait guère. Sans doute il la considérait comme inférieure à ses mérites d'ingénieur. Peut-être aussi avait-il peur. Et le vieux Tom, qui s'en doutait, lui dit, plus d'une fois en riant, « Vois-tu, Diego, quand on craint encore quelque chose, on ne se fait pas plongeur. Reste assez d'un an dans la famille. Tu nous feras de beaux plans pour nos machines pendant que Robert et moi nous irons sous l'eau te pêcher des millions. » 6 mois s'écoulèrent ainsi. Le temps était partagé entre les travaux de Douvres et le bonheur paisible du cottage. Quelle joie quand on arrivait le samedi soir au haut de la colline qui domine Whitestable et qu'on voyait briller aux rayons du soleil couchant les fenêtres de la maisonnette de briques. Hélène et Mary venaient au-devant de la voiture jusqu'au bas de la côte. Quelquefois, elles se cachaient derrière une rangée de saules qui bordait la route. Tom retenait le cheval, Robert et Diego les cherchaient du regard sous les arbres, puis de jeunes rires éclataient tout à coup, elles étaient là. Alors on sautait à terre, on s'embrassait, et les deux couples joyeux marchaient ensemble jusqu'au bourg, pendant que le père les suivait au petit pas du cheval. Et puis, c'était la nappe blanche qui couvrait la table pour le repas du soir, et le feu clair qui flambait dans la vaste cheminée, et les douces confidences échangées à voix basse après le souper, pendant que Thomas Disney fumait sa pipe en regardant ses enfants d'un œil attendri. Pour Robert, l'univers tenait alors tout entier dans ce cottage béni. Il n'avait pas de passé, il ne redoutait pas l'avenir, mais il aurait toujours voulu vivre ainsi. Mais Dieu avait disposé de lui et ce temps heureux fut bien court. Un jour à Douvres, le père reçut une lettre de Londres, ce qui lui arrivait rarement. Le soir, il annonça à ses enfants qu'ils entreraient tous à Whitstable le lendemain, et pendant le voyage, sa préoccupation fut visible. Cette arrivée inattendue mit le cottage en fête, et quand Tom se retrouva chez lui, la joie de ses deux filles lui rendit sa bonne humeur habituelle. Après le souper, en face de la tasse de thé préparée par Mary et servie par Hélène, le vieux marin n'y tint plus. « Mes enfants, dit-il, il faut que je vous parle d'une chose grave. J'ai un grand projet et ce projet vous intéresse autant que moi. Voici de quoi il s'agit. Vous savez que le vieux Tom Disney est connu de toute l'Angleterre et qu'on s'adresse à lui pour toutes les opérations difficiles. Eh bien, voici une lettre d'un directeur d'assurance maritime avec lequel j'ai déjà fait quelques affaires. Il m'en propose une nouvelle, mais celle-ci vaut la peine qu'on y réfléchisse. Un navire de la Compagnie des Indes, le Sutlej, a fait naufrage dans la Méditerranée, sur la côte de France. Oh, on a peu d'espoir d'en tirer parti, car il a échoué sur un fond vaseux et on le suppose enfoui profondément dans le sable. Les assureurs ont pensé à moi pour se couvrir d'une partie de leur perte et ils voudraient m'abandonner pour une somme fixe le navire et la cargaison à mes risques et périls. Ils me demandent 4 000 guinées, 104 000 francs. C'est moitié à peu près de ce que je possède. Le Sutlej est chargé de coton, mais il porte aussi une somme de 100 000 livres sterling en lingots d'or. 2 500 000 francs. Si nous réussissons, c'est la richesse pour vous et pour vos enfants. Si nous échouons, c'est peut-être la ruine. Voilà pourquoi j'ai voulu vous consulter. À cette confidence inattendue, Robert éprouva plus d'étonnement que d'émotion. Les affaires, et surtout les affaires d'argent, étaient pour lui des choses si étrangères qu'il n'y arrêtait jamais sa pensée. Il ne sut que répondre et il crut lire dans les yeux d'Hélène qu'elle partageait son indifférence. Quant à Mary, elle ne paraissait même pas avoir compris et restait absorbée par la contemplation de son mari qui, lui, avait écouté Disney avec une attention et une émotion très visibles. Diego se chargea de répondre pour tous. Il dit que l'affaire était trop belle pour la refuser et qu'il fallait aller à Londres et prendre des renseignements. Dans toutes ces paroles perçut un enthousiasme qui surprit beaucoup Robert, car Diego avait toujours montré fort peu de goût pour les excursions sous-marines. On convint qu'il accompagnerait Disney à Londres et ils partirent dès le lendemain. Pendant leur absence, Hélène et Robert échangèrent leurs impressions. Ils avaient tous les deux le vague pressentiment d'un malheur. Il leur semblait plus sage de rester dans ce cottage où ils avaient vécu tant de jours heureux. Cette fortune qu'il s'agissait de conquérir en risquant une partie de leur aisance ne les tentait guère. Mais ils s'entendaient parfaitement sur ce point et ils étaient d'accord aussi pour suivre les volontés de leur père. 3 jours après, Disney revint avec Diego. Celui-ci était radieux. Il ne prit pas le temps de descendre de voiture pour crier à Robert que l'affaire était faite. Disney, quoique plus calme, semblait aussi fort content. Le vieux marin, aussi avisé que hardi, avait laissé Diego visiter à Londres les ingénieurs et les courtiers d'assurance, et il avait su découvrir dans une taverne de Billingsgate un matelot et un contremaître échappés au naufrage du Sutlej. Dans cette auberge infime, en face d'une cruche de vin gin, il avait plus appris en une soirée que son gendre en 3 jours dans les bureaux élégants du Lloyd. Les deux marins lui avaient expliqué en termes du métier la position du navire, la nature du fond d'échouage et l'arrimage inférieur de la cargaison. Disney les quitta, parfaitement fixé sur les chances de l'opération et convaincu qu'elle était excellente. Il voulait la conclure avant de quitter Londres, et le lendemain même, avec cette simplicité et cette hardiesse que les Anglais apportent dans les affaires, il avait signé son traité avec la compagnie et payé son acquisition au moyen d'un chèque sur la banque où il avait son compte courant, tout comme un gros négociant. Le sort l'était jeté, et toutes les espérances des paisibles habitants du cottage reposaient désormais au fond de la Méditerranée, dans les flancs d'un navire disloqué par la tempête. Il fallait réussir à tout prix. Disney déclara qu'il voulait emmener tout le monde et il fut convenu qu'on irait s'établir ensemble sur la côte de Provence. Le vieux marin s'occupa, sans perdre un instant, de choisir un personnel de travailleurs d'élite parmi ses plongeurs de Douvres. Il fit fabriquer à Londres des appareils perfectionnés, il se munit de lettres de recommandation pour les autorités françaises, et la petite armée se mit en route, aussi bien équipée que possible. 1 mois après, elle était installée sur la côte de Provence entre Toulon et Antibes. Le cap Camara, près duquel avait échoué la Sutlej, était entièrement désert. Le phare qu'on y a bâti plus tard n'existait pas encore à cette époque et il fallait aller très loin pour rencontrer une habitation. Après quelques recherches, on découvrit pourtant, à 3 miles du rivage, sur le penchant d'une colline semée de pins magnifiques, une assez grande maison, très rustiquement bâtie et très simplement meublée. C'était une bastide, comme disent les gens du pays, avec des murailles blanchies à la chaux, un toit de tuiles rouges et des contrevents verts. Il y avait un grand jardin, ou plutôt un verger, plein d'arbres fruitiers et de fleurs. Le propriétaire, qui était un négociant de Toulon, loua le tout pour un prix très modique et bientôt, Hélène et Mary prirent possession de leur nouveau domaine. La petite colonie de travailleurs s'établit sous des tentes que Disney fit dresser sur la côte même, et 8 jours après, les travaux étaient déjà commencés. Cette nature méridionale produisit sur Robert une impression très vive. Il avait toujours vécu sous le ciel brumeux de l'Angleterre, et le soleil radieux de la Provence lui parut un astre nouveau. L'immense nappe bleue de la Méditerranée ressemblait si peu aux flots grisâtres de la Tamise qu'il crut voir la mer pour la première fois. Hélène Et même la tranquille Mary partageait les sensations de Robert. Mais Disney et Diego, familiarisés depuis longtemps avec les pays chauds, s'occupaient beaucoup moins de ces beaux aspects que des travaux du sauvetage. Bientôt, l'existence de la colonie fut organisée. Hélène dirigea si habilement l'installation de la Bastide qu'au bout d'un mois, la famille aurait pu se croire encore au cottage de Whitstable. Deux servantes alertes, recrutées parmi les paysannes des environs, furent chargées des soins intérieurs du ménage, et tout dans la maison prit cet air de propreté et de soigneux entretien qui fait dans tout pays reconnaître une habitation anglaise. Le rez-de-chaussée contenait le salon et la salle à manger. Chaque ménage avait une belle chambre au premier et unique étage, et Disney prit possession d'une tourelle qui terminait le bâtiment et qui s'accédait par un escalier extérieur. Le vieux marin avait préféré ce poste élevé parce que, de sa fenêtre, à l'aide d'une lunette, il distinguait très bien ses ouvriers. Les deux servantes habitaient un bâtiment séparé qui avait dû jadis être une grange. Dès le début, la vie fut réglée comme sur un vaisseau de guerre. Les trois hommes partaient au lever du soleil, ils passaient la journée sur les travaux, déjeunaient sous les tentes avec les ouvriers, et le soir seulement, ils rentraient à la Bastide, où le souper les attendait. Souvent, Hélène et Mary venaient se promener sur la grève, et leur présence était toujours une fête pour la petite armée des travailleurs. Elles allaient presque toujours s'asseoir sur une falaise élevée, à l'ombre des lentisques très épais qui croissaient autour d'une fontaine, et de leur barque, les plongeurs distinguaient leurs voiles blancs que le vent agitait comme un signal au-dessus de la verdure. Les travaux furent d'abord très lents. Il fallait avant tout s'assurer de la position du navire. Disney ne voulait confier à personne le soin d'exécuter cette première reconnaissance, mais il permit à Robert de l'accompagner. Tout était prêt. Les appareils à air avaient été essayés et les hommes exercés à la manœuvre. On pouvait descendre sans crainte, et Robert n'en éprouvait aucune, quoiqu'il n'eût encore jamais exploré l'intérieur d'un navire naufragé. Il savait que la lueur crépusculaire qui pénètre les vagues manque tout à coup aux plongeurs qui se glissent sous ces ruines humides. Il savait que là, tout est noir, sinistre, désolé. Mais le vieux Tom l'avait fortifié contre les terreurs et ce fut sans le moindre sentiment d'inquiétude que, par une belle matinée du mois de mai, le jeune plongeur descendit avec son père adoptif sur l'épave du Sutlege. Diego était sur une des barques et le contremaître John Slough sur l'autre, dirigeant les appareils à air. Les sondages avaient été précis. Disney et Robert prirent pied sur le pont même du Sutlege. Il était échoué à une profondeur assez faible, 10 à 12 brasses tout au plus. Mais il s'était enfoncé de 15 pieds dans la vase. L'avant, qui avait donné contre des rochers, se trouvait entièrement démembré, et la violence du choc avait séparé le navire en deux par le milieu. Les mâts avaient été brisés par la tempête ou coupés dans le naufrage. Il n'en restait que des tronçons. Disney eut bientôt trouvé la grande écoutille, et il commença à descendre en faisant signe à Robert de le suivre. Ils avançaient avec des précautions infinies, marchant à reculons pour éviter de briser par un choc imprévu le verre de leur casque, une main sur le tuyau à air, de crainte qu'il ne s'enroulât autour d'un obstacle, l'autre main sur la corde de vie pour être prêt à donner le signal de remonter. Oh, si le cœur battait à Robert, ce n'était pas de peur. Et ne pensait qu'à la toison d'or qu'il allait conquérir. Mais le dragon que Jason combattit était moins effrayant que le spectacle qui attendait le jeune plongeur dans le grand carré du navire. Poussé dans le golfe de Lyon par une de ces tempêtes d'hiver si dangereuses dans la Méditerranée, le Sutlej avait été jeté à la côte par une mer affreuse et presque tous ceux qui le montaient avaient péri. Les pêcheurs avaient recueilli dans les rochers les corps mutilés de matelots qui s'étaient jetés à la nage. Mais la plupart des passagers avaient été surpris par la mort dans leur cabine et la mort les y avait laissés. Le trésor était gardé par des cadavres. À la clarté blafarde qui filtrait par les flancs entrouverts du navire, Robert les voyait au-dessus de lui, autour de lui, comme des fantômes flottants. Quelques-uns, soulevés par la mer, s'étaient accrochés au plafond de leurs mains crispées. Plus loin, une mère à genoux tenait encore deux enfants dans ses bras. Au moment où Robert écartait de la main les longs cheveux dénoués d'une jeune fille qui flottait autour d'elle comme des algues, Disney comprit que le jeune homme allait faiblir. Il lui prit le bras et l'entraîna. Le vieux plongeur se dirigeait dans ce sombre dédale avec une sûreté et un instinct prodigieux. L'or devait avoir été déposé dans une soute qui s'ouvrait au-dessous de la cabine du capitaine. Il se pouvait que l'arrière du navire se trouvât profondément ensablé et dans ce cas, tout travail eût été impossible à cause de l'obscurité qui n'aurait pas permis de découvrir et d'extraire les caisses de lingots. Mais le contraire était arrivé, et la mer, en accomplissant son œuvre, semblait avoir voulu favoriser les projets des plongeurs. L'arrière avait talonné sur des roches qu'il avait à le soulever, mais vers le milieu du navire, la quille avait rencontré une vase molle, et il en était résulté que le bâtiment se trouvant suspendu par les extrémités, le centre s'était rompu sous le poids du chargement, tandis que la poupe était restée en l'air. Cette découverte était précieuse et les plongeurs en profitèrent. Armés chacun d'un levier, ils achevèrent de défoncer le plancher de la cabine et au-dessous d'eux apparurent intactes 10 caisses de dimension médiocre. Chacune d'elles devait contenir des lingots pour une valeur de 10 000 livres sterling, 1 250 000 francs. Dans cette première visite, ils ne pouvaient que constater l'existence du trésor, mais leur désir était réalisé au-delà de tout ce qu'on pouvait en espérer, car l'état du navire devait grandement faciliter les travaux. Debout sur cet amas d'or qui désormais leur appartenait, Robert et Disney se serrèrent la main et reprirent le chemin lugubre qu'ils avaient déjà suivi. Le pauvre Robert frissonnait d'horreur quand il sentait le contact de ces pauvres corps qui flottaient au hasard comme les âmes des petits-enfants errent dans les limbes. Quand il fut remonté sur la barque, et qu'on lui eut enlevé son casque, il était si pâle que Diego crut bien que le trésor était perdu. Il interrogea son beau-frère du regard et du geste, et son anxiété était visible. Quand il fut rassuré sur le résultat de l'exploration, son visage s'éclaira soudainement, et Robert pensa que le désir d'être riche devait lui tenir bien fortement au cœur, puisqu'il s'occupait tant des caisses d'or et si peu des dangers de son père. Ce jour-là, pour la première fois, un sentiment de doute s'éveilla dans le cœur de Robert. Bon, ce n'était encore qu'un instinct vague. C'était peut-être aussi un de ces avertissements que Dieu nous donne par des voies mystérieuses. Néanmoins, cette première journée se termina dans la joie. Le vieux Tom était tout fier d'avoir découvert un trésor pour ses chers enfants. Il riait, il chantait, il se moquait de la compagnie d'assurance qui avait cru tromper un vieux marin et qui se trouvait trompé. Mais si le succès de l'entreprise était assuré, l'exécution n'en était pas moins pénible et difficile. Il fallait en effet, après avoir déblayé le plancher de la cabine, soulever successivement chacune des caisses avec des leviers, la rouler jusqu'à l'ouverture du grand panneau par une série de manœuvres très délicates, puis l'amarrer solidement et enfin veiller à ce qu'elle pût être hissée sans s'accrocher au passage de l'écoutille. Chacune de ces opérations devait être longue. Il y avait 10 caisses. C'était donc une grosse besogne. Il n'y avait pas de temps à perdre, car un coup de vent pouvait changer la position du navire et ruiner d'un seul coup toutes les espérances. On commença les travaux dès le lendemain, avec une telle ardeur et un tel ensemble, que la tâche se trouva bien facilitée. Moins de 15 jours après la première descente, une des caisses était hissée et reconnue intacte. Disney, en homme prévoyant, s'était assuré à l'avance d'un moyen de transport, car on ne pouvait songer à conserver dans une maison mal close et mal gardée un trésor de cette importance. Il avait donc frété une grosse barque à voile qui était venue mouiller à quelques encablures des travaux. On y chargea le précieux colis que Disney et Robert conduisirent à Marseille, où ils l'échangèrent contre de bonnes valeurs sur Paris et sur Londres. Il fut décidé qu'on opérerait de même pour les autres caisses. Le sauvetage se poursuivit avec un bonheur inouï, car pendant près de 3 mois, la mer resta calme et rien ne vint déranger les travaux. Tous les 15 jours à peu près, Disney faisait le voyage de Marseille, tantôt avec Robert, tantôt avec Diego, et chaque fois, son crédit chez le banquier s'arrondissait d'une nouvelle somme de 10 000 livres sterling. Dieu avait protégé les plongeurs, et le vieux Disney le bénissait chaque soir avec ses enfants, pendant que la voix grave d'Hélène lisait la prière. Lui, qui avait travaillé 40 ans pour amasser péniblement une modeste aisance, il rencontrait tout à coup, à la fin de sa carrière, une fortune énorme, et cette fortune, il la tenait maintenant et il était sûr de la laisser à ses enfants. Que de projets on faisait par les belles soirées d'été, quand la famille se réunissait dans le jardin de la Bastide après une journée brûlante. La lumière argentée de la lune brillait au-dessus des arbres. Le rossignol chantait de sa voix sonore, et les jeunes époux se surprenaient parfois à regretter que ce magnifique pays ne fût pas celui où ils devaient vivre. Chacun avait son rêve. Hélène et Robert pensaient à embellir le cottage et à acquérir, près de Whitstable, un joli domaine pour y mener la douce vie des riches fermiers anglais. Disney pensait, sans trop oser le dire, à tenter ailleurs quelques autres grosses entreprises qui, cette fois, l'illustreraient à tout jamais dans sa corporation. Il aimait à rappeler l'histoire de Phillips, le hardi plongeur, qui, sous le règne de Charles II, retira 7 millions de la cale submergée d'un galion espagnol et dont les descendants siègent aujourd'hui à la Chambre des Lords. Et il aspirait à égaler John Gunn, le plus fameux chercheur des trésors sous-marins de ce siècle, qui abattit à Whistler, avec qui l'on retire par lui de la mer, toute une rue qu'on appelle encore la rue des dollars. Diego témoignait des désirs bien différents. Diego parlait d'aller s'établir à Paris ou à Londres et d'y mener une grande existence. La famille était riche et, selon lui, la richesse devait dispenser de travailler, à moins qu'elle ne servît à de vastes spéculations destinées à l'augmenter encore. Hélène et Robert l'écoutaient avec une sorte de terreur, mais ils se rassuraient en pensant que leur père était seul maître de sa fortune, et le vieux plongeur se montrait peu disposé à habiter les grandes villes. Tant qu'ils vivraient, ils étaient bien sûrs que le cottage serait toujours leur centre de famille et que leur sœur ne les quitterait pas. La pauvre Mary, elle, n'exprimait aucun désir. Absorbée tout entière par l'adoration qu'elle avait vouée à son mari, il semblait qu'elle fût revenue au premier temps de son enfance. Son esprit, au loin de se développer, se rétrécissait chaque jour, et elle oubliait même le peu qu'elle avait pu savoir autrefois. Hélène avoua un jour à Robert, en rougissant, que sa sœur n'était pas en état de répondre à une lettre. Elle ne savait même presque plus écrire. Son mari, du reste, ne semblait nullement préoccupé de cette infériorité, et quand Robert se risqua à lui en parler, il dit que les femmes étaient toujours bien assez savantes. Du reste, les allures et les discours de Diego avaient bien changé. Le pauvre ingénieur, sans famille et sans fortune, voyait s'ouvrir devant lui la perspective d'une opulente existence et son langage était déjà celui d'un parvenu. Sa conduite, cependant, était restée la même, du moins en apparence. Il témoignait toujours la même tendresse à sa femme, la même amitié à Robert et la même déférence à Disney. La fortune n'avait encore gâté que ses manières. Vers les premiers jours de l'automne, le sauvetage des caisses fut terminé. Il restait encore sur le Sutlej une riche cargaison de coton fort avariée par la mer, mais dont on pouvait néanmoins tirer un parti avantageux. Disney, peu pressé d'entrer en jouissance de ses nouvelles richesses, jugea utile de rester jusqu'à ce que la mer eût rendu tout ce qu'elle avait pris. Cette résolution était agréable à Robert, car il avait fini par s'attacher à ce beau pays. Hélène s'était fait aimer de tous les paysans des environs. On ne l'appelait que la bonne dame anglaise, et les pauvres la connaissaient à 3 lieues à la ronde. Les travaux avaient eu plusieurs fois la visite de quelques curieux, attirés par le bruit de l'entreprise. La famille Disney avait même dû recevoir, dans la modeste bastide, les autorités du pays, et Hélène s'en était acquittée à merveille. Malgré leur double qualité d'anglais et de chercheur de trésors, les étrangers étaient l'objet de la bienveillance générale. Aussi, l'idée de prolonger leur séjour ne leur déplaisait-elle nullement. Diego seul se montra vivement contrarié. Devant son beau-père, il n'osa pas faire une opposition ouverte, mais il demanda à ne plus prendre part aux travaux. Et comme son concours n'avait jamais été fort utile, Disney l'autorisa à disposer de son temps. Il fit d'abord 1 ou 2 voyages à Marseille, puis il se mit à passer ses journées loin de la maison, tantôt dans les bois, tantôt dans les landes qui entouraient la Bastide, mais toujours seul. Il ne rentrait à la Bastide que le soir et, toujours accablé de la fatigue, comme s'il se fût livré à quelque exercice violent. Il ne chassait pas, il ne montait pas à cheval, mais que pouvait-il faire? Personne ne semblait s'en préoccuper, excepté Robert, auquel ses allures singulières inspiraient de vagues inquiétudes. Un jour, vers le milieu de novembre, Disney pria Robert Bird d'aller à Marseille régler ses comptes avec le banquier, comme il avait l'habitude de le faire lui-même tous les mois. Le vieillard se trouvait trop fatigué pour entreprendre le voyage, et d'ailleurs il tenait à rester pour presser ses ouvriers, car la mauvaise saison approchait. Cette fois, Diego proposa à Robert de l'accompagner. Il fallait aller attendre le passage de la diligence dans le bourg de Cogolin, à 15 miles de la Bastide, et les deux beaux-frères firent la route à pied jusqu'à ce village. Le lendemain matin, ils étaient à Marseille. Robert passa sa journée chez le banquier, qui lui remit des comptes parfaitement en règle, desquels il résultait que la fortune de son beau-père dépassait 2,5 millions. Il dîna chez lui avec Diego, qui semblait s'épanouir aux compliments que le financier ne leur épargna pas sur leur fortune si rapidement faite, et le jour suivant, la diligence les déposa vers 10 heures du soir dans le bourg de Cogolin. Là, force leur fut de s'arrêter, faute de trouver une voiture pour les ramener à la Bastide. Ils y seraient arrivés d'ailleurs au milieu de la nuit, et ils crurent plus sage de souper et de se coucher pour partir de grand matin. Dans l'unique auberge du village, on leur donna 2 chambres contiguës qui s'ouvraient toutes deux sur une galerie de bois appliquée au mur. De cette galerie, un escalier descendait directement dans la cour. Minuit était sonné quand ils eurent terminé leur souper, un souper sommaire, et ils allèrent se coucher immédiatement. Diego dit qu'il mourait de sommeil et Robert ne chercha pas à prolonger la veillée. Il eut pourtant quelque peine à s'endormir et se retourna longtemps avant de fermer les yeux. La fatigue lui avait sans doute excité les nerfs, car les moindres bruits le réveillaient en sursaut. Tantôt il croyait entendre ouvrir la porte de Diego, tantôt il lui semblait qu'on marchait avec précaution sur la galerie. Le repos avait été si long à venir qu'il finit par tomber dans un sommeil de plomb, mais le jour était déjà venu quand il s'éveilla en entendant Diego frapper contre la cloison qui les séparait. Il l'appelait paresseux et lui criait de se lever. Robert vit qu'il était plus de 7 heures et se hâta de s'habiller. En entrant chez Diego, il le trouva occupé à terminer sa toilette. La voiture avait été commandée la veille et après un court déjeuner, les 2 beaux-frères se mirent en route pour la Bastide par une de ces splendides matinées de l'automne provençal, aussi chaudes que les jours d'été de Londres. Robert parlait peu car il était tout entier à la joie de revoir ceux qu'il aimait, et Diego, absorbé sans doute par quelques pensées du même genre, ne disait pas un seul mot. Il était 10 heures à peu près, quand le toit rouge de la Bastide commença à se montrer au-dessus d'un bouquet de pins parasols qu'il abritait d'un côté du nord. Bientôt Robert crut distinguer devant l'entrée de la maison un groupe nombreux et agité. Il lui semblait reconnaître les chemises bleues des ouvriers de Disney, et il croyait en même temps voir briller des armes et des uniformes. Très étonné de ce spectacle, car à cette heure-là, les plongeurs devaient être au travail, il interrogea Diego, qui affirma qu'il ne voyait rien. Il fouetta vigoureusement le cheval, et en moins d'une demi-heure, la voiture fut au bas de la colline. De là, les voyageurs ne voyaient plus le rassemblement. Mais ils avaient été aperçus car John Sloth, le contremaître, accourait au-devant d'eux. Il criait, et il était à peine à portée de la voix, que Robert lui cria. « Qu'y a-t-il, John? Au nom du ciel, qu'est-il arrivé ?» Mais le marin était trop essoufflé de sa course pour répondre. Et quand il fut arrivé à la tête du cheval, il eut de la peine à reprendre haleine pour dire d'une voix entrecoupée « Oh, descendez, monsieur Robert, descendez, vous m'apprendrez le malheur que trop tôt. »« Un malheur ?» s'écria Robert. Il l'a avoué depuis, sa première crainte fut pour sa chère Hélène. Il avait son nom sur les lèvres, il n'osait pas le prononcer. Mais son incertitude ne fut pas longue. « Notre maître, notre beau maître est mort !» reprit Sloth. « Qui, mon père ?» Robert sauta à bas de la voiture et courut comme un fou vers la maison. Il allait si vite que le pauvre John ne pouvait le suivre, et il ne songeait même pas à Diego qui, frappé de stupeur sans doute, n'avait pas quitté la voiture. Dans la petite cour qui précédait la Bastide, se pressait un groupe composé des ouvriers du sauvetage et de paysans des environs, qui se découvrirent en voyant Robert et s'écartèrent pour lui livrer passage. Deux gendarmes qui gardaient l'escalier de la tourelle le connaissaient probablement car ils ne l'arrêtèrent pas. Robert franchit les marches en trois bonds, poussa violemment la porte de la chambre et tomba à genoux en apercevant le corps sanglant de Thomas Disney. Le vieux marin était étendu sur son lit et semblait dormir. Une blessure béante trouvait le côté gauche de sa poitrine nue, mais sa loyale figure avait gardé son expression calme et douce. Il avait dû être surpris par la mort. Deux hommes vêtus de noir, le médecin et le juge de paix du canton, écrivaient près d'une table. Ils se levèrent pour tâcher de contenir Robert, mais ils ne purent l'empêcher de se précipiter sur le corps de son père. Cet effort fut le dernier. Le malheureux s'affaissa sur lui-même et s'évanouit. Quand il rouvrit les yeux, il était couché dans sa chambre et Hélène pleurait, agenouillée près de lui. Robert se jeta dans ses bras et il la serra longtemps contre sa poitrine, comme s'il avait voulu la défendre contre la mort qui venait d'entrer dans la maison. Ce fut l'instant le plus cruel de cette affreuse journée. Ils mêlaient leurs larmes et se courbaient ensemble sous le premier coup du malheur, comme deux enfants surpris par la tempête. John Slough vint arracher son jeune maître à cette douloureuse étreinte. Le juge de paix voulait parler au fils de la victime, et Robert suivit le vieux marin, qui lui aussi pleurait amèrement. Le juge de paix attendait Robert dans le salon. C'était un excellent homme qui venait quelquefois visiter les hôtes de la Bastide et qu'ils aimaient tous beaucoup. Il serra affectueusement la main de Robert, mais sa contenance exprimait en même temps une douleur sincère et un sentiment d'inquiétude que le jeune homme ne s'expliqua pas d'abord. Monsieur Robert, dit-il, oh, je remplis ici un devoir doublement pénible. J'aimais et j'estimais votre père adoptif. Et je prends une part bien vive au malheur qui vous frappe. Mais je suis magistrat et obligé de rechercher les auteurs d'un crime atroce. Pardonnez-moi donc de troubler votre douleur en vous adressant des questions indispensables. Monsieur Disney, avait-il des ennemis ? Mais aucun, monsieur, que je sache. Comment n'aurait-il eu dans ce pays où il était étranger, où il n'a fait que du bien? Mais je sais que M. Disney était très aimé. Mais parmi tous ces ouvriers anglais qui sont venus avec vous pour travailler au service, au sauvetage, n'en est-il aucun auquel vous puissiez supposer un motif de haine contre votre père adoptif? Non, monsieur, répondit Robert sans hésiter. Tous nos hommes sont de vieux serviteurs qui, depuis de longues années, partageaient les dangers de mon père. Ils les traitaient comme ses enfants. Il m'est impossible de croire qu'il s'est trouvé entre tous ces braves gens un monstre capable d'assassiner son bienfaiteur. Bon, j'ai peine à le croire aussi, mais la cupidité est une triste conseillère. On savait que M. Disney avait en sa possession de grosses sommes, et l'or retiré du Sutlej devait former un trésor assez riche pour tenter un homme qui n'a que son salaire. Mais c'est impossible, monsieur, interrompit vivement Robert. Tous nos ouvriers savaient que les caisses qui contenaient les lingots avaient été transportées à Marseille. Mon père ne gardait que les fonds nécessaires à nos dépenses journalières et au paiement de nos hommes. Mais ces fonds devaient s'élever à une somme importante. Combien pensez-vous que M. Disney pouvait avoir chez lui? Bon, je ne sais pas au juste, mais je suis sûr que la somme ne pouvait pas dépasser 10 à 12 000 francs. Et où déposait-il habituellement son argent? Dans un secrétaire dont il portait toujours la clé sur lui et où il enfermait aussi ses papiers. Bon, c'est le meuble là-bas qui est dans sa chambre, à côté de son lit. Ce meuble a été trouvé ouvert, continua lentement le juge de paix. La clé avait été déposée par votre père sur sa table de nuit et l'assassin s'en est servi car elle porte encore l'empreinte de ses doigts ensanglantés. Les papiers ont été fouillés. On les a trouvés en désordre, comme si on les avait lus à la hâte, mais on les a laissés dans les tiroirs. L'argent seul a disparu, et votre évaluation était exacte, car d'une note écrite de la main de votre père, il résulte que le secrétaire devait contenir 11 rouleaux d'or de 1 000 francs chacun. Ce serait donc pour enlever cette somme que le crime aurait été commis. Mais je ne puis le croire, monsieur. Ou du moins, je ne puis admettre qu'un seul de nos hommes se soit laissé tenter par cet or. Chacun d'eux était assuré par notre père d'une part dans ses bénéfices, et cette part dépassait la somme qui a disparu. Nous avons trouvé, en effet, continua le magistrat, un compte établi par M. Disney, d'où il semble résulter que ses ouvriers étaient intéressés au sauvetage, mais cette disposition était-elle connue d'eux? Mais parfaitement, monsieur. Mon père agissait toujours ainsi. Nos ouvriers étaient associés et la modeste aisance dont ils jouissent vient tout entière de nos anciennes opérations. Saviez-vous, continua le juge de paix après un moment de silence, quel papier contenait le secrétaire? Des comptes avec les banquiers de Marseille? Son marché avec la compagnie d'assurance de Londres. Il y avait aussi son testament, le connaissiez-vous? Un testament? Oh non, monsieur. Jamais mon père ne m'en a parlé. Mais ce testament n'a pas été retrouvé, mais il a existé. Car dans une liasse de papier qui a sans doute échappé aux recherches du meurtrier, j'ai découvert une lettre de votre père qui fait allusion. Ne serait-il pas possible que ce testament fût déposé chez un notaire ou chez un homme de loi? Oh, je l'ignore absolument, répondit Robert, un peu étonné de l'insistance du magistrat sur ce point. Jamais je n'ai eu d'entretien avec mon père sur ses affaires d'intérêt, si ce n'est relativement à ses placements chez le banquier de Marseille. Je vous crois, reprit le juge, mais il serait d'un grand intérêt de retrouver ce testament. Votre beau-frère connaissait-il mieux que vous les affaires de M. Disney? Non, je ne le pense pas. Diego est toujours resté étranger aux questions d'argent, comme moi. Plus que moi, peut-être, car dans ces derniers temps, il avait même cessé de s'occuper des opérations de sauvetage. Si j'insiste, continua le magistrat, c'est que mes fonctions m'y obligent. Vous venez de m'assurer que vos ouvriers sont innocents du meurtre, et je suis tenté de le croire, mais alors, qui donc a pu le commettre? Devons-nous penser que M. Disney a été frappé par un assassin de passage, par quelque échappé du bagne de Toulon? Tenté par la nuit, par l'isolement de votre habitation? Faut-il au contraire admettre qu'un intérêt qui nous échappe a armé le bras du meurtrier? Ce crime peut se rattacher à des faits que j'ignore, à quelques circonstances du passé de votre père peut-être. Veuillez donc, cher monsieur Robert, me dire tout ce que vous savez. J'ai en vous et en votre loyauté une confiance absolue. Ce n'est pas le magistrat qui vous parle, c'est un ami que la mort affreuse de votre père affecte profondément et qui voudrait la venger. Vivement touché de ce langage, Robert prit la main que lui tendait le digne juge de paix et en s'efforçant de retenir ses larmes, il commença à lui raconter la courte et simple histoire de sa vie.